RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On parlait de ce marqueur de l'enseignement de l'Église, hein, l'attention aux plus pauvres avec le souci du partage, de la solidarité, de l'aide aux plus fragiles. Qui apparaît dès les premières communautés chrétiennes. Les plus grands saints ont vécu dans la pauvreté, les religieux en font le vœu. Alors très concrètement, justement, on va regarder tout cela, on va regarder de plus près en quoi consiste cette fameuse diaconie, hein, ce service de diaconie présent dans les diocèses et qui organise cette charité avec un vaste réseau associatif. Vous êtes toujours et encore les bienvenus avec vos témoignages. Est-ce que vous faites partie d'un service de la diaconie dans votre diocèse et parlez-nous de vos engagements peut-être associatifs, vos engagements de chrétiens et pour cette attention pour les plus pauvres, on vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. C'est parti.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les lundis, nous parlerons de la santé mentale avec notre partenaire, la Fondation Falleret. C'est Anne-Gaëlle Guillol hein, qui s'intéressera notamment aux jeunes. Comment va la santé mentale des jeunes? Bonne question, on verra ça à 10h55. Pour nous accompagner dans cette émission jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir quatre invités. Bonjour Barbara Kervadec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF.
Vous êtes merci pour l'invitation.
Et merci à l'équipe de Toulon qui vous accueille sur place. Vous êtes la directrice de l'association Les Amis de Jéricho. On en a parlé d'ailleurs dans la première partie, qui fait partie de l'Union Diaconale du Var, hein, l'UDV qu'on pourra appeler ce matin dans cette émission. Bonjour Bruno Rollet.
Oui, bonjour.
Merci également à vous, directeur de l'association Logivar, hein, qui fait également partie de l'UDV. Et puis Bénédicte Fugé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducatrice spécialisée dans l'association Les Amis de Jéricho qu'on vient de présenter. Et enfin, Benoît Mangenot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diacre dans le diocèse de Rennes et responsable diocésain de la diaconie brétilienne. Benoît Mangenot, un mot justement sur la diaconie. À quel moment vous l'avez rejoint? Est-ce que quand on devient diacre, quand vous allez nous dire on est nommé diacre, est-ce que c'est automatique?
Non, pas du tout. J'ai été ordonné diacre à Paris. En 2010, et la diaconie brétilienne a vu le jour au moment où j'ai pris ma retraite à Saint-Malo, c'est-à-dire début 2016, fin 2015, début 2016. Il n'y a pas du tout d'automatisme, mais c'est vrai qu'on rencontre un certain nombre de diacres dans les diaconies. Il n'y a pas d'antipathie entre les deux.
Cette attention pour les plus pauvres, Benoît Mangenot, comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre vie? Est-ce que quand vous avez été ordonné diacre, pardon, ça a été là aussi un peu normal ou alors c'est quelque chose qui vous porte depuis longtemps?
Je pense que par nature, le diacre doit être tourné vers les périphéries, comme dit le pape. Tourné vers ceux qui sont un peu loin de l'Église, et que le message évangélique nous invite à nous tourner en priorité vers les blessés, vers les cabossés de la vie, et que donc le diacre a cette mission particulière d'être attentif, à l'écoute de ce que nous disent les plus fragiles, à l'écoute d'abord peut-être pour aider, mais aussi pour apprendre.
Barbara Kervadec, les Amis de Jéricho, c'est une association majeure hein, de l'Union Diaconale du Var. Alors même question pour vous, à quel moment vous l'avez rejoint cette association? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie, vous avez eu un déclic?
Alors pas forcément un déclic parce qu'en fait je suis rentrée par l'Union Diaconale du Var.
Oui.
Et j'ai ensuite intégré les Amis de Jéricho que je ne connaissais absolument pas. Et j'y suis maintenant depuis 20 ans. Donc c'est une vraie histoire.
Oui.
Jéricho, c'est l'association la plus ancienne hein, du réseau de l'Union diaconale du Var. Elle existe depuis 1985 et elle a beaucoup évolué depuis. C'est un accueil de jour pour personnes isolées, accueil inconditionnel pour toute personne qui en éprouve le besoin, quel que soit son parcours de vie, ses origines, sa culture. On a aussi depuis 2 ans ouvert un tiers-lieu alimentaire pour les familles qui sont hébergées dans les hôtels. On a aussi le bus de nuit Samu Social qui maraude tous les soirs sur différents arrêts de l'aire toulonnaise pour faire de la distribution alimentaire auprès des plus précaires.
Oui.
Et voilà, les plus précaires, c'est pas forcément des gens qui sont uniquement à la rue. Hein. C'est aussi des personnes qui peuvent être isolées avec des petites ressources. Bénédicte, qui est en contact avec le public, pourra vous en dire plus tout à l'heure.
Bruno Rollet pour l'association Logivar, là aussi c'est une association phare hein, dans l'Union diaconale du Var, qui a vraiment pour mission déjà d'accueillir, ça c'est très important, d'accueillir, de domicilier, d'héberger, d'accompagner, enfin vous faites beaucoup de choses, hein, toute personne vulnérable.
Mais, oui, tout à fait, non.
Mais dans une volonté aussi de les réinsérer dans la société, dans la vie professionnelle.
Mais tout à fait, c'est en les accueillant, donc on répond à des besoins premiers, mais c'est vrai que tout le travail d'accompagnement se fait sur les aider à avoir confiance en eux. Donc on a développé des petits ateliers en lien avec la préinsertion professionnelle, où on leur verse un petit pécule sur des activités, pour justement qu'ils arrivent à reprendre confiance en eux, reprendre goût dans des choses qu'ils peuvent faire. On est très loin des chantiers d'insertion, mais on est dans cette première phase où le travail, notamment le travail manuel, peut tout à fait être porteur de sens pour les personnes et les aider à retrouver confiance en eux. Et après, bien sûr, il y a tout l'accompagnement plus classique, l'accompagnement social, la prise en compte de toutes les difficultés de santé, et elles sont multiples, pour là aussi les aider dans la façon dont ils peuvent prendre en compte leurs difficultés, les surmonter ou vivre avec.
Alors, pour qu'on comprenne bien le lien entre vos associations, en fait, ce sont des associations, c'est pour ça que je vous pose cette question, qu'on pourrait présenter comme chaque jour dans cette émission, je pense donc j'agis. Mais là, il y a un vrai lien avec l'Union diaconale du Var. Comment fonctionne ce lien, Bruno Rollet?
Ce lien fonctionne beaucoup par tout le tissu des bénévoles qui sont présents dans nos associations et qui, justement, viennent apporter une vision un peu différente, qui viennent apporter le lien entre des personnes engagées par rapport à leur foi et donc le quotidien des accueillis. C'est particulièrement vrai, d'ailleurs, pour tout ce qui est fonctionnement avec le bus de nuit, des amis de Jéricho, qui, justement, fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Mmh. Au sein du CHRS, on a moins de bénévoles, mais ils viennent nous aider sur des tâches liées à l'alimentaire, sur des ateliers, liés à la créativité, par exemple, sur des possibilités d'organiser des sorties. Donc, ils restent présents pour donner ce sens et que dans ce lieu-là, des personnes puissent venir témoigner et être en contact avec les personnes les plus démunies.
Et le premier à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Alors, tout à l'heure, donc j'ai écouté la première partie avec en particulier Gilles Robèche.
Tout à fait.
Dont mon neveu Emmanuel m'a beaucoup parlé. D'ailleurs, vos correspondants là de Toulon doivent le connaître, c'est Emmanuel qui travaille avec la diaconie du Var. Alors, c'est mon neveu. C'est un garçon, c'est pas un pilier d'église. Il va pas souvent à l'église, mais il s'est engagé dans un poste important à la diaconie du Var parce que c'est sa manière à lui de mettre en pratique ce que la foi chrétienne, qui est peut-être un peu légère chez lui, mais elle l'a poussé à s'engager dans la diaconie pour un poste assez important. Et donc, c'est une manière... Il est venu l'autre jour là faire un tour un week-end à la maison, chez moi.
Oui.
Et il a l'air content de ce qu'il fait. Et ça satisfait son besoin de faire quelque chose dans la société, en particulier pour les gens à qui la diaconie s'adresse pour les aider. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous dans cette émission pour témoigner. J'aime bien cette expression, ce n'est pas un pilier d'église, et je pense que ça vous parle, hein, Benoît Mangenot. Est-ce qu'il faut être très croyant, très pratiquant pour faire partie d'un service de la diaconie?
Non, en fait, quand on dit service de la diaconie dans notre diocèse, c'est assez différent de ce qui se passe dans le Var. Et donc, je ne peux pas parler de gens qui sont dans le service de la diaconie, mais dans le service des différentes associations qui œuvrent pour, je dirais, la charité, comme on disait autrefois.
Ouais.
je dirais même que c'est presque l'inverse. Nous avons sans doute une difficulté qui est que on a deux mondes qui ne s'ignorent pas, mais qui ne s'interpénètrent pas suffisamment entre ceux qui vont à la messe, comme on disait autrefois, les talas, et puis ceux qui sont engagés dans le service de leurs frères. Il y a l'interpénétration, bien entendu, mais il y a aussi parfois une certaine ignorance, une certaine volonté de la part des chrétiens de dire ben finalement tout ça est délégué à des associations qui s'en occupent, c'est très bien, on s'en occupe pas. Mais pour être au service des plus pauvres, eh bien il y a de tout, il y a des gens qui ont une foi très très engagée, qui se manifestent notamment par une piété active, et puis d'autres qui sont plus loin de la pratique religieuse traditionnelle, et puis d'autres qui ne sont pas croyants. Et tout ça agit ensemble pour essayer d'être bon samaritain.
Ah bah justement, bon exemple avec vous, Bénédicte Fugger, hein, vous êtes éducatrice spécialisée dans l'association. Comment vous en êtes venue d'ailleurs à rejoindre l'association? Est-ce que là aussi c'était des convictions, un engagement très personnel?
Alors, des convictions, sûrement. voilà, j'ai un parcours aussi professionnel qui fait que j'ai toujours été tournée vers l'autre. Si on travaille à Jéricho, il faut aussi qu'effectivement qu'on ait des convictions. Hein, c'est pouvoir accompagner au mieux les personnes qui sont le plus dans le besoin. Donc, c'était une évidence pour moi. C'est un public que j'ai découvert sur le tard. Parce que ça fait uniquement maintenant 2 ans que je suis éducatrice sur l'accueil de jour. Mais c'est un public qui est tellement riche de tout. Voilà, il y a plein de choses. C'est une mixité phénoménale, un apport culturel différent. Enfin, c'est vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, de pouvoir être au service de l'autre.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. On vous écoute.
Alors, je suis la maman d'un jeune porteur de handicap et je voudrais témoigner d'une association qui s'appelle À Bras Ouverts, qui est une association nationale qui a un petit peu plus de 35 ans, où le principe, c'est que des jeunes chrétiens, plutôt des jeunes qui usent les bancs d'église, à contrario du témoignage précédent, qui accompagnent en binôme un jeune ou un enfant porteur de handicap. Et ils partent ensemble en week-end dans des maisons où ils sont accueillis. Je veux dire, c'est des particuliers qui prêtent leur maison pour ces week-ends. Mmh. Ils partagent une vie simple. Ils font les courses ensemble. Ils font la cuisine ensemble. Ils rient beaucoup. Ils font des jeux, des balades. Ils vont à la messe ensemble aussi. Voilà, c'est une vie fraternelle. Simple, c'est pas des activités extraordinaires, mais ça, mon fils, quand il revient de ses week-ends,
il est enchanté.
Ah oui, c'est plus qu'enchanté. Et là, ce week-end, il est parti au Rassemblement National d'À Bras Ouverts, où ils étaient 280 jeunes et accompagnateurs dans la région parisienne. Et ce qui m'a vraiment touchée à la fin du week-end, quand j'ai récupéré mon fils et je me suis rendu compte que les autres jeunes ont dit la même chose que Hortense qui accompagnait Pierre. Hortense a dit merci à Pierre de ce qu'elle avait partagé avec lui ce week-end. Je trouve ça extrêmement beau et très touchant.
Eh ben, merci. Merci Isabelle pour votre témoignage. On entend votre émotion et également quand vous nous racontez tout cela. Voilà un autre exemple d'engagement, un autre exemple d'engagement avec des convictions également. Barbara Kervadec, au sein de l'Union Diaconale du Var, est-ce que vous avez d'autres exemples d'associations peut-être là aussi au service des personnes en situation de handicap?
Au sein de l'Union Diaconale du Var, non. Pas spécialisée en tout cas dans le handicap. En revanche, toutes les associations peuvent accueillir des personnes porteurs de handicap.
Hmm. Voilà. Bruno Rollet, vous confirmez, vous n'avez pas d'autres informations?
Non, il n'y a pas d'association spécifique en effet. Maintenant, c'est vrai que accompagner les personnes en situation de handicap ou accompagner donc les personnes en précarité, il y a quand même des grandes similitudes. Moi, j'ai eu aussi un parcours dans le handicap et c'est vrai que la difficulté et tout l'intérêt de notre travail, c'est de se dire comment on peut aider l'autre. Et c'est vrai que après le mot aimer, le mot aider, pour moi, le plus difficile à définir, puisque aider l'autre, c'est certes lui apporter, mais est-ce que dans l'aide, il faut lui garder aussi de l'autonomie? Il faut aussi le mettre des fois face à des contradictions. Donc, à quel moment je soutiens? À quel moment, en tant que d'ailleurs directeur, j'ai ce rôle-là parfois de sanctionner? Donc, toute cette richesse autour du mot aider qui vient nourrir pour moi la notion d'accompagnement qui est vraie aussi bien pour le public handicapé, d'ailleurs en situation de handicap, que pour les personnes en grande précarité.
Et vous faites comme Michel et Isabelle, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous parler de vos engagements, pour nous parler d'un service de la diaconie, peut-être dans votre diocèse dans lequel vous êtes engagé. 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On écoute une chanson de Patrick Bruel, à tout de suite.
Et ceux qui prient et ceux qui parlent un peu trop fort, il y a ceux qui se mettent à l'abri, même s'il n'y a pas de pluie dehors. Il y a ceux qui meurent d'amour aussi, et ceux qui n'ont pas fait d'effort. Il y a ceux qui disent que c'est fini, et ceux qui veulent y croire encore. Il y a ceux qui regardent le ciel, et ceux qui croient qu'ils sont heureux. Ceux qui pensent que tout est pareil, et ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui parlent dans leur sommeil, ceux qui n'ont pas su dire adieu. Ceux qui ont envie de soleil, et tous ceux qui ferment les yeux. Et à toi, y a moi, y a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Y a ceux qui ont refait leur vie, ceux qui ont défait leur bagage. Ceux qui tombent pour la patrie et ceux qui n'ont pas été sages. Y a ceux qui rêvent leur symphonie, ceux qui ferment les livres d'images. Ceux qui n'ont plus aucune envie, ceux qui se cachent le visage. Y a ceux qui crient avec les loups et ceux qui auraient tellement à dire. Ceux qui ne vivent qu'à genoux, ceux qui donneraient tout pour s'enfuir. Y a ceux qui se cherchent partout, ceux qui ont perdu le sourire. Y a ceux qui se tiennent debout et ceux qui n'ont fait que mentir. Et à toi, y a moi, y a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Et à toi, y a moi, y a nous. Dans ce monde-là, nous deux au milieu de la foule, enlacés comme un serpent qui s'enroule. Y a ceux qui abandonnent tout, et ceux qui rêvent de voyage, ceux qui ont des idées sur tout, ceux qui entendent les messages. Y a ceux qui sont à moitié fous, qui ne voient même plus les virages. Il y a ceux qui n'ont plus rien du tout et ceux qui veulent davantage. Et il y a toi, il y a moi, il y a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Et il y a toi, il y a moi, il y a nous.
de là. Nous deux au milieu de la foule, enlacés comme un serpent qui s'enroule. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. Nous deux ensemble pour la vie, comme tous ces millions d'amoureux aussi. Et y'a toi, moi, dans ce monde-là.
Ce monde-là, c'était Patrick Bruel qui est de retour avec son 10e album, encore une fois.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et je ne suis pas seul, hein, heureusement, pour cette émission. Quatre invités nous accompagnent jusqu'à 11h. Barbara Kervadec, vous êtes la directrice de l'association Les Amis de Jéricho. Bénédicte Fugé, vous êtes juste à côté, éducatrice spécialisée dans cette même association. Bruno Rollet, directeur de l'association Lougivar. Ces deux associations faisant partie de l'Union Diaconale du Var. Et puis Benoît Mangenot, hein, vous êtes diacre dans le diocèse de Rennes et responsable diocésain de la diaconie brétilienne. Alors justement, quelques mots sur cette diaconie qui a été créée il y a quelques années, en 2016. À l'époque, c'était notamment pour coordonner l'accueil des réfugiés au sein du diocèse de Rennes.
Oui, tout à fait. C'était l'un des deux objectifs, mais... effectivement, l'accueil des réfugiés dans le diocèse de Rennes a été le facteur déclenchant de la création de cette diaconie. À l'époque, le pape avait lancé un appel pour que chaque paroisse accueille une famille de réfugiés. Et puis, notre archevêque, Monseigneur Dornelas, avait relayé cet appel, invité les paroisses d'Ille-et-Vilaine à se mettre en marche. Et comme un certain nombre d'initiatives se prenaient, il a paru utile d'avoir une association unique pour gérer ces accueils de familles. Et donc, de nombreux réfugiés irakiens, syriens sont arrivés à cette période et des collectifs paroissiaux ou des associations, mais l'objectif était plutôt d'éviter qu'on crée des associations dans chaque paroisse, dans chaque clocher. Et donc, de nombreuses initiatives ont été prises. Et par exemple, chez moi, à Saint-Malo, nous avons accueilli trois familles de réfugiés irakiens yézidis. Mais il y avait un deuxième objectif dans la création de cette diaconie, c'était d'essayer de donner une suite à Diaconia 2013. Dans notre diocèse, on peut dire de façon un peu triviale que le soufflet était retombé, c'est-à-dire qu'il y avait eu un très bel élan sur... Diaconia 2013, à l'époque, j'étais pas dans ce diocèse, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai entendu parler. Et donc, il y avait une volonté de dire, mais finalement, il est important qu'il y ait, dans notre diocèse et dans les services diocésains, un service de la diaconie qui se mette en place. Donc, l'association l'a démarré en réunissant, en mettant autour de la table les différents mouvements. Soit les mouvements nationaux, Secours catholique, CCFD, etc. Et puis les associations locales qui avaient vu lieu le jour soit au moment de l'accueil des réfugiés, soit bien avant,
oui.
Puisqu'on a des associations qui ont déjà 20 ans, 30 ans d'existence. Et puis ce qu'on a appelé les collectifs paroissiaux ou... les services paroissiaux de solidarité qui sont mis en place justement à l'occasion de l'accueil des réfugiés. Mmh. Donc ça a été le point de départ de la diaconie, c'est-à-dire effectivement accueillir les réfugiés, avoir un cadre juridique, avoir un lieu de coordination pour l'accueil des réfugiés, partager les expériences, s'aider les uns les autres.
Et voilà. Ça a changé depuis 2016, alors, justement, ça a évolué.
Alors depuis, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, l'association, elle était sur l'accueil des réfugiés, il n'y avait pas trop de difficultés. En revanche, pour le reste, il y avait de la part des différents acteurs de la solidarité une certaine frilosité par rapport à cette initiative de notre archevêque. Chacun a toujours peur qu'on vienne lui prendre son jouet. On a une compétence, on est investi à fond dans une mission, et puis subitement, voilà que arrive du ciel quelque chose qui essaye de nous coordonner. On n'est pas forcé. Il y a besoin de rassurer. Donc, on a mis un certain temps à se connaître, à se comprendre. Et puis, il y a eu cette initiative qui a été prise de dire, mais finalement, la diaconie au niveau diocésain, bon, c'est une chose, mais il y a déjà de nombreux acteurs au niveau diocésain, et donc à quoi bon rajouter un truc en plus. En revanche, au niveau local, au niveau de la paroisse, c'est là qu'effectivement la diaconie se vit au quotidien, et donc on a lancé cette idée des diaconies paroissiales. Ça a été mis dans la lettre pastorale de notre archevêque en 2018, et puis il a demandé à la diaconie brétilienne, donc à notre association, de rédiger une charte de la diaconie paroissiale. Et depuis, ben, nous essayons de développer cette diaconie paroissiale progressivement pour que dans chaque paroisse, à terme, on en est encore loin, il y ait effectivement ce resserrement des liens entre les acteurs de la solidarité et la communauté paroissiale.
Avec des champs d'action très différents, hein. C'est ce que vous nous expliquez, pas forcément uniquement l'accueil des personnes migrantes, hein, par exemple, mais aussi voilà la santé, le deuil, les personnes en situation de précarité.
Alors en fait, la santé, le deuil, oui peut-être, mais essentiellement la précarité quand même, parce que la santé va relever plutôt du domaine de la pastorale de la santé au niveau du diocèse. Le deuil de la pastorale des funérailles. Donc, nous sommes plus axés sur tout ce qui est précarité, mais il y a quand même de quoi faire. Les besoins sont immenses et les acteurs dans ce domaine sont très nombreux, avec une certaine disparité, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même type de tissu associatif dans une grande ville comme Rennes, dans un ensemble urbain moyen comme Saint-Malo, ou comme Fougères, ou comme Redon, ou comme Vitré. Oui. Et puis, le monde rural, où effectivement, là, le tissu, il est très, très, très lâche. Et pourtant, les besoins sont nombreux. Donc, il y a une diversité, et bon, on construit, on est très admiratif de ce qui s'est fait dans le Var.
Oui.
Mais nous en sommes... on va pas construire la même chose, d'abord, parce qu'on a notre histoire qui est différente. Mais on est aussi sur très admiratif de ce qui s'est fait là-bas et on essaye d'en tirer le meilleur parti.
C'est vrai, Bruno Rollet, je me tourne vers vous et je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Logivar, hein, qui fait partie de l'Union diaconale du Var. Quand on a préparé cette émission avec mes collègues, avec Amaury notamment, bah, y a beaucoup de personnes qui nous ont dit bah, il faut contacter le Var, contacter absolument le Var parce qu'ils font beaucoup de choses. Vous êtes un peu l'exemple, d'après vous, Bruno, pour d'autres services.
Alors, j'ai pas toute l'antériorité. Enfin, la notion d'exemple, c'est plus Gilles Robèche qui pourrait en parler. Mais c'est vrai que le nombre d'associations et le travail en réseau fait que ben, on a des propositions. Mais ça, quand on dit propositions, on est plus sur la logique institutionnelle qui font que ben, on peut répondre à des demandes. Et on a aussi quand même toute cette recherche de proactivité et d'être proche de l'autre, qui est en effet tout à fait, à mon sens, moi je suis là depuis un an, mais qui est tout à fait remarquable.
Barbara Kervadec.
Je dirais pareil, on connaît d'autres associations hein, qui luttent contre la précarité également, mais qui ne font pas partie du réseau de l'Union diaconale du Var. On sent que dans les associations du réseau, il y a un petit truc en plus quand même. Il y a une notion de tolérance, de partage, d'ouverture à l'autre incontestable. Et vraiment, il y a ce travail partenarial très... très dense et très efficace pour le coup. Voilà, on sent qu'on fait partie d'un réseau. Il y a vraiment une âme qui se dégage de ce réseau et qui du coup transpire au travers de tous les salariés et bénévoles qui enrichissent ce réseau.
On va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Dites-nous si vous faites partie d'un service de la diaconie hein, dans votre diocèse. Qu'est-ce que vous y faites d'ailleurs? Et puis, si vous êtes dans une association au service des personnes les plus précaires, en situation de vulnérabilité, venez vraiment nous les présenter. 04 72 38 20 23. À tout de suite. Avec Benoît Mongenot, diacre dans le diocèse de Rennes et responsable diocésain de la diaconie brétilienne, Bruno Rollet de l'association Logivar, Bénédicte Fuget de l'association Les Amis de Jéricho et Barbara Kervadec de cette même association. Alors j'aimerais justement qu'on entre un peu plus dans le détail puisque vous avez de quoi rougir avec cette association. Vous avez deux accueils de jour. Si on entre un peu plus dans le fonctionnement, et vous avez accueilli près de 25 000 personnes en une année, et pour 80 000 repas servis, c'est quand même assez impressionnant. Hein.
Oui, c'est impressionnant, on est un gros accueil de jour. On a une moyenne de 125-130 personnes différentes par jour. Les services les plus sollicités sont les services liés à l'aide alimentaire, notamment le petit déjeuner et le repas du midi. Effectivement, 80 000 repas, ça inclut donc les petits déjeuners, les repas du midi, les repas servis le week-end puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7 et les repas qui sont distribués par le bus de nuit SAMU Social le soir lors des maraudes.
Ouais, c'est oui, allez-y, pardon, je vous ai coupé la
parole. Je voulais parler aussi, nous avons donc des services élémentaires qui sont proposés aux personnes qui le souhaitent. Un service d'hygiène, douche et un service bagagerie gratuit, le seul gratuit d'ailleurs sur l'aire toulonnaise, pour que les personnes qui n'ont pas de logement et hébergement puissent laisser leurs affaires et être tranquilles la journée, de savoir que leurs affaires sont en sécurité et elles peuvent se poser... tranquillement. Nous avons aussi un service domiciliation et accompagnement social pour les bénéficiaires du RSA. Et puis, donc, ce tiers-lieu alimentaire pour les familles hébergées en hôtel qui a ouvert il y a 2 ans et qui, du coup, accueille maman, papa et enfants, ce qui n'est pas le cas aux Amis de Jéricho où seules les personnes majeures sont accueillies.
80 000 repas servis, c'est quand même assez impressionnant. J'ai presque envie de dire que ce sont des chiffres qui sont quand même relativement tristes hein, à lire et à dire ici à la radio. Est-ce que vous constatez, vous, du côté de Toulon, une augmentation de la précarité ou alors c'est un peu compliqué à dire?
Alors, effectivement,
Bénédicte,
dans le cadre, donc moi je pardon,
non, pas de problème, je reconnais les voix.
Bon, ça va alors. Effectivement, moi je voulais faire un petit point par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis en partie, donc je suis sur les deux pôles, je suis en partie sur le pôle accueil, premier accueil social, donc où là mes missions c'est l'accueil, le diagnostic, l'orientation, et sur le pôle accueil de jour avec l'animation des services alimentaires. Donc sur le, on va dire sur mon service de premier accueil social, les constats sont de plus en plus compliqués, hein. Je constate effectivement quand je fais les diagnostics, que nous avons beaucoup de personnes qui se retrouvent en situation de paupérisation, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui travaillent ou qui ont des minima sociaux, qui ont des logements, mais qui font appel à l'association parce que les ressources ne leur permettent pas de pouvoir assumer le quotidien, donc notamment tout ce qui est le quotidien alimentaire. Donc ça, effectivement, c'est un constat qui est en augmentation depuis la fin du Covid. On a, sur l'accueil de jour aussi, on a pu constater que nous avons énormément de personnes qui présentent des pathologies psychiatriques, qui viennent aussi sur l'accueil solliciter un accueil, un temps pour se poser. Et là, les chiffres sont pas bons non plus, hein, puisque on se retrouve avec une augmentation assez flagrante de ce profil de public et qui, c'est aussi lié par rapport à ce qu'on a pu vivre pendant le confinement. Donc même si nous sommes restés ouverts, on parlait de santé mentale, la santé mentale des personnes a été largement impactée par le Covid et on en sent encore les, les conséquences aujourd'hui.
Ouais, la santé mentale, on en reparlera tout à l'heure à 10h55 avec notre chroniqueuse Anne-Gaëlle Guillol de la Fondation Falleret. Bénédicte Fugé, gardez la parole. À quel moment intervient votre compétence d'éducatrice spécialisée dans ses amis de Jéricho, dans l'association?
Alors, elle intervient donc tous les jours. Non, je suis présente tous les jours sur l'accueil, pas forcément le week-end, même si je fais des week-ends. Voilà, moi, j'interviens sur le matin sur les rendez-vous de premier accueil et les après-midi sur les services sur les services de l'accueil de jour. C'est enrichissant. Donc, moi, je mets mes compétences à disposition des personnes que je reçois. Donc, je fais du diagnostic, donc en fonction de leurs problématiques et de leurs demandes, je vais faciliter, on va dire, le lien. On parlait de réseau tout à l'heure au niveau de l'Union nationale du Var. Je m'appuie beaucoup sur nos partenaires internes, pour le coup. Hein, on a beaucoup d'associations qui sont sur Toulon ou sur le Var et avec qui je travaille régulièrement. Voilà, c'est un travail d'équipe et donc nous mettons nos compétences dans l'accompagnement au service des personnes. Donc ça peut être de l'écoute, ça peut être du réconfort, ça peut être de pouvoir instruire une demande au niveau du 115 et SIAO pour que les personnes puissent se mettre à l'abri. Sur l'accueil de jour, ça va être aussi l'animation des ateliers pour pouvoir justement faire émerger les compétences psychosociales de nos personnes parce qu'elles sont riches de ça. Souvent, elles ne le voient pas, elles n'en ont pas conscience, mais c'est flagrant quand on les reçoit sur nos différents ateliers. Voilà, on est là pour renforcer justement ces compétences et puis pour pouvoir les accompagner au mieux.
Bruno Rollet pour Logivar, l'association Logivar. Je le rappelle, vous avez pour mission principale vraiment d'accueillir et d'accompagner des personnes vulnérables dans un parcours d'insertion socio-professionnelle. Vous avez deux maisons à Toulon, la maison Saint-Louis et la résidence solidaire les Favières, et vous accompagnez près de 200 personnes à peu près par an. Là, on est sur des chiffres qui sont un peu plus bas. C'est parce que on n'est pas dans la même temporalité. On imagine que ces accompagnements sont relativement longs, Bruno.
Oui, tout à fait, parce que on va dire que c'est au minimum 6 mois, et après c'est renouvelable. Il y a des personnes qui sont là depuis plusieurs années. On a en fait plusieurs typologies. Une première typologie de personnes où on remet un pied à l'étrier et c'est un accident de vie et ça peut remonter facilement sur l'accès au logement. Et après, il y a des personnes qui sont en plus grande difficulté administrative ou de santé et pour lesquelles ça va être très très long. Sur des difficultés administratives de personnes qui n'ont pas de papier, qui viennent de différents pays. Parfois même, on arrive des fois des impasses et donc ça peut prendre énormément de temps. Car parfois, on arrive même sur des situations où on arrive à des situations administratives un peu kafkaïennes où finalement les papiers ne seront pas forcément possibles du fait des difficultés administratives souvent du pays d'accueil. Pas du pays d'accueil, mais du pays d'origine.
Quel est le premier besoin avec toutes les personnes que vous rencontrez chaque année, vous? Qu'est-ce que vous constatez?
Alors le premier besoin à laquelle on répond, c'est quand même celui d'hébergement. Mmh. Donc ça, c'est notre première mission, donc d'être en sécurité, d'avoir une chambre à eux, avec pour la plupart quand même des chambres individuelles, avec la possibilité d'avoir bien sûr dans les chambres toilette et douche. Donc on est dans une logique de confort qui est quand même bien différente de celui de la rue. Donc c'est quand même cette première sécurité qu'on leur apporte. Et après, tous les autres besoins, c'est arriver à se projeter dans des logiques de logement d'abord. Ça, c'est la demande en effet étatique. Et c'est vrai que c'est une logique intéressante, ce dispositif, ce qui permet de dire on ne demande plus à la personne de faire la preuve qu'il peut habiter, mais on va lui donner un logement. Et c'est à lui de cet élément de logement qui sera un élément structurant pour lui. Et c'est vrai que c'est un changement de fonctionnement qui a été initié par l'État et qui porte tout à fait ses fruits. Après, donc c'est vrai que les éléments importants, c'est toute la prise en compte de la santé. Et c'est peut-être là le plus difficile, puisqu'on est souvent dans des logiques d'une peur importante du milieu médical, donc du refus de soins. le côté administratif du droit à la sécurité sociale, tout ça, finalement, ça passe pour la plupart. Et la difficulté, après, c'est les personnes qui ont mal vécu des situations, qui font que ils sont dans ce refus de soins. Et donc, les accompagner malgré ce refus, et c'est aussi toute la dimension du coup humaine qui doit prendre être prise en compte pour essayer de d'être présent avec lui, de ne pas lui démettre d'éléments négatifs quand il refuse de se soigner, et d'essayer de trouver, c'est le rôle de tous les accompagnants, d'être dans ce lien-là pour essayer de rebondir sur quand même des envies de vie et des envies sur des compétences pour que la personne se sente aussi respectée, accueillie, même dans ce refus où on sent que la personne, en refusant les choses, va finalement accélérer sa fin de vie.
On entend vraiment un accompagnement très personnalisé à chaque fois pour toutes ces personnes. On va continuer d'en discuter dans un instant, le temps d'écouter une nouvelle chanson de Calogero et de Marie Poulain qui va certainement vous laisser le temps, j'espère, de nous appeler au 04 72 38 20 23 et de témoigner, de nous parler de vos engagements, du service de la diaconie dans votre diocèse. Vous avez de quoi dire, ne soyez pas timide. 04 72 38 20 23, à tout de suite.
Dans le boule des départs, ceux qui restent sont toujours tristes. C'est comme de rester là, à regarder partir. Le protagoniste, c'est le hall des au revoir. Je sais qu'il faut que tu t'en ailles, mais attends encore qu'on se regarde en détail. Dans le hall des arrivées, quelque chose de sacré. On attend le cœur battant, les grands pas se rapprochant. C'est le hall des retrouvailles, là où le temps s'arrête, où le désir s'emballe. Je ne sais jamais trop où me mettre. Bientôt on se rapproche
de l'arrivée ou du départ.
Bientôt on sera loin,
pour ça on est toujours en retard.
Bientôt on se rapproche ou loin,
mais ce n'est que provisoire. Bientôt on se rapproche
de l'arrivée ou du départ.
Bientôt on sera loin,
pour ça on est toujours en retard.
Bientôt on sera loin,
oui,
loin,
mais ce n'est que provisoire. Dans le hall des départs, j'affiche toujours un sourire triste. J'ai déjà hâte de te revoir, mon très cher protagoniste. C'est le hall des mouchoirs. On pense toujours un peu au pire, plus que de simples au revoir. Ce sont des je t'aime quoi qu'il arrive. Dans ces halls trop grands, moi je ne vois que toi. Et j'espère en partant qu'en fait tu décides de rester là. Je serai à l'heure pour ton vol, pancarte à la main qu'on rigole, pour ne rater aucun de nos câlins hollywoodiens.
Très belle chanson de Calogero et de Marie Poulain, le hall de départ sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec Barbara Kervadec, Bénédicte Fugé, Bruno Roulet et Benoît Mangenot, nous parlons ce matin de la diaconie, du service de la diaconie dans certains diocèses. Bonjour Emma.
Oui, bonjour monsieur. Je voulais simplement faire mention des petites sœurs des pauvres dont on n'a pas entendu parler ce matin, sauf erreur de ma part parce que j'ai pas écouté l'émission pendant tout le temps, mais qui font un travail admirable. 24 heures sur 24, elles s'occupent des personnes âgées dans leur maison à la Croix-Rousse, à Lyon. Et cela, depuis 2 siècles, ça a commencé par Jeanne Jugan, leur fondatrice. Et je les ai découvertes, moi, il n'y a que quelques mois. Et j'ai vu, elles font un travail incroyable. Donc, ça serait bien quand même de les mentionner et de dire en quelques mots, peut-être, vous en avez sûrement entendu parler.
Ah ben, vous êtes là pour nous rappeler beaucoup de choses. Vous savez, quand je vous donne la parole, c'est justement aussi pour nous dire ce qu'on n'a pas dit dans les émissions. Merci hein, Emma, beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. Benoît Mangenot, les petites sœurs des pauvres, cette congrégation, vous la connaissez bien?
Ah forcément, puisque Jeanne Jugan, c'est notre sainte locale, puisqu'elle est née à Cancale et que sa première maison était à Saint-Malo. Donc il y a évidemment une maison des petites sœurs des pauvres à Saint-Servant, à Saint-Malo donc. Et puis il y a le centre des petites sœurs des pauvres qui est à Saint-Perne, entre Saint-Malo et Rennes, entre Rennes et Saint-Malo pour dire les choses dans l'ordre. Donc effectivement elles sont très présentes, elles font un travail dans l'ombre, mais très actif. Et elles ont cette capacité à faire venir de nombreux bénévoles. Moi je suis toujours frappé de voir qu'il y a des tas de gens qui me disent « Ah oui, on a fait ça aux petites sœurs des pauvres, on est allé voir les petites sœurs des pauvres ». Donc, on ne les voit pas beaucoup elles-mêmes, mais elles font un gros travail et elles sont toujours là pour servir. Moi, j'avais remarqué, notamment quand on a eu l'arrivée des réfugiés, des déplacés ukrainiens, qu'elles nous avaient aussitôt signalé qu'elles avaient accueilli chez elles un certain nombre de déplacés ukrainiens. Donc, elles sont là quand on a besoin d'elles. Et puis, au quotidien, elles sont là pour accompagner dans l'esprit de Sainte Jeanne Jugan, leur fondatrice, qui a vraiment devrait nous servir de modèle à tous.
Ah, voilà, tout est lié. En tout cas, merci encore Emma pour nous avoir parlé des petites sœurs des pauvres. Barbara Kervadec, on arrive doucement à la fin de cette émission. Pour les amis de Jéricho, j'aimerais qu'on signale également le secteur sport et jardin qui permet aux personnes qui fréquentent l'accueil de jour d'avoir une activité un peu différente.
Oui, absolument. On propose différentes activités tout au long de la semaine, notamment des activités sportives qui peuvent être portées soit par nos animateurs salariés, soit par des bénévoles. Donc en général, on prend des personnes qui s'y connaissent un petit peu dans le cadre sportif. On a un jeune salarié qui anime un atelier futsal.
Ah oui.
grâce à une mise à disposition par la ville de Toulon du gymnase de la Roseraie qui se situe pas loin de notre accueil de jour. Et nous avons un bénévole qui est ceinture noire qui co-anime avec un salarié un atelier judo, qui est très prisé par les accueillis. Et effectivement, nous avons aussi ce même bénévole qui, tous les mercredis matins, vient récupérer les volontaires accueillis pour les accompagner jusqu'au jardin solidaire de la Castille, action qui est portée par l'Union diaconale du Var. Et les accueillis avec les bénévoles cultivent, prennent une grande bouffée d'oxygène parce que ça les sort vraiment de leur structure, de leur quotidien. Et ce sont des moments très privilégiés et très importants pour eux.
Bruno Rollet, pour l'Ogivar, hein, cette association qui permet de réinsérer des personnes dans la société, dans le monde professionnel également. Vous proposez aussi la ronde des meubles. Alors vous savez de quoi je parle, j'imagine. C'est ce chantier d'insertion qui est très important pour votre association.
Alors, l'aspect chantier d'insertion donc n'est plus directement dans l'association. Par contre, on continue à travailler en lien avec la ressourcerie sur des ateliers de pré-insertion, toujours autour du meuble. Donc, mais pas dans la logique de chantier parce que c'était trop contraignant pour les personnes. Là, c'est la possibilité. On a embauché donc une éducatrice spécialisée en formation qui est ébéniste. Donc, avec les collègues donc de la ressourcerie de l'UDV, on récupère des meubles. On les remet en état et donc on les met en vente. Et c'est ces activités-là qui leur permettent de comprendre qu'ils ont encore cette valeur. Ils ont encore un savoir-faire. Ils sont dans des logiques du coup d'ateliers qu'on souhaite être réguliers pour qu'on rentre dans cette possibilité de s'inscrire un peu dans le temps par rapport à leur vision professionnelle. Donc c'est entre le, vraiment une animation, on va dire, et la logique professionnelle. C'est ce ça ce qui nous a paru le plus correspondre finalement à la réalité de, des personnes que l'on accueille, qui sont parfois très très éloignées de l'emploi. Et donc l'animation autour d'un savoir-faire, quand même autour des meubles, donc il est important pour... il y en a certains qui ont déjà fait ça, donc ils se retrouvent totalement. D'autres qui le découvrent, mais ils découvrent que leurs mains ont des capacités, que leur réflexion peut entrer parce qu'ils participent à dire qu'est-ce que l'on peut faire de ce meuble-là. Donc on peut utiliser toutes leurs compétences et les remettre en confiance en eux par rapport à la possibilité d'intégrer un parcours plus professionnel en lien là avec des partenaires chantiers d'insertion plus classiques.
Benoît Mangenot, il y a ce besoin d'après vous de proposer des activités un peu qui changent de l'ordinaire, qui changent d'un quotidien parfois un peu sombre pour toutes les personnes qu'on évoque hein, depuis le début de cette émission, des personnes en situation de précarité.
Je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce que j'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit de ce que nous pourrions faire dans ce domaine. Il y a sûrement des tas de choses, mais c'est clair que sur le plan du principe, tout ce qui peut contribuer à rendre sa dignité aux gens qui l'ont un peu, qui doutent d'eux-mêmes, est important. On le fait. Par exemple, avec l'exemple qui vient d'être donné, pas pour les meubles, mais pour le jardin solidaire. Ou des gens qui alors avec le jardin solidaire on recrée de la du lien social d'une part parce que les gens sont ensemble à cultiver le même jardin et puis d'autre part de leurs mains de leur sueur vont naître des belles choses des beaux légumes voilà donc ça c'est des choses qui existent c'est toujours important effectivement de proposer des choses dans ce domaine. Mais là encore, nous sommes pas dans le même contexte que la diaconie du Var. C'est-à-dire que j'ai cité l'exemple du jardin solidaire que je connais parce qu'il est, il y en a à Saint-Malo. C'est une association non confessionnelle qui se trouve être animée par des chrétiens convaincus et dans lequel de nombreux chrétiens agissent. Mais l'association est non confessionnelle et on a souvent, par rapport à tout ce que je viens d'entendre sur la diaconie du Var, je me dis on est sur deux modes de fonctionnement différents, c'est-à-dire que nous n'avons pas ces services au niveau de la diaconie brétilienne, d'Ille-et-Vilaine. Brétilienne, ça veut dire d'Ille-et-Vilaine. Mais par contre, on a cette attention à tous ces chrétiens qui sont engagés dans des mouvements non confessionnels, avec toutes les questions que ça pose, parce que c'est pas toujours évident. Le non confessionnel amène parfois à être... complique la gymnastique intellectuelle.
Vous voyez, ma question vous embarrassait. Finalement, vous avez très bien répondu, Benoît Mangenot. On arrive doucement à la fin de cette émission. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver tout de suite notre chroniqueuse pour nous parler de la santé mentale. Et voici Folie Ordinaire, agir pour notre santé mentale avec la Fondation Falray. Bonjour Anne-Gaëlle Guillol.
Bonjour Melchior.
Ravi de vous entendre. On parle ce matin des jeunes. Comment vont-ils ?
Alors, tout n'est pas au beau fixe pour eux. Leur état de santé mentale est même assez préoccupant. En 2021, en France, un jeune sur cinq confiait avoir connu un épisode dépressif. Et c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans.
Mais cet état était directement lié à la pandémie, non ?
Alors, pas tout à fait. Il est évident que la situation sanitaire a fortement dégradé leur santé mentale. C'est aussi le cas d'ailleurs chez nos voisins en Belgique, par exemple, ou en Norvège. Oui. Les jeunes se sont sentis pris au piège, sacrifiés durant les confinements et les pics épidémiques. Ils n'avaient plus la possibilité de nourrir les relations sociales qui sont essentielles au bien-être, en particulier à cet âge-là. Seulement, on observait déjà avant la Covid une augmentation du mal-être chez eux. Et depuis, ça ne s'est pas vraiment résorbé.
Alors, comment expliquer ce mal-être chez les plus jeunes, Anne-Gaëlle ?
eh bien, on met de plus en plus en cause les réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok. Encore récemment, ce 23 mai, un médecin-chef des États-Unis a publié un rapport qui alerte sur leurs effets extrêmement nocifs. Des liens ont été démontrés entre leur utilisation et l'apparition de symptômes dépressifs. Sur les réseaux, les jeunes sont quotidiennement exposés au regard des autres, à une mise en scène d'idéaux de vie et de beauté très éloignés de la réalité. Ils se comparent, se jugent, se déprécient. Ils font face à des risques d'addiction, de cyberharcèlement et à des contenus dangereux. Et puis, il y a aussi l'exposition toujours plus tôt et plus longue aux écrans, ce qui se fait au détriment d'activités nécessaires au développement. Moins de jeux avec d'autres enfants, moins d'imaginaire, d'activités physiques essentielles au bien-être. Et puis enfin, les enfants et les ados sont spectateurs d'une actualité violente et angoissante, en rapport notamment avec la situation environnementale et la crise écologique qui menace directement toutes ces générations.
Est-ce qu'on a une estimation du nombre d'enfants et d'adolescents qui sont vraiment touchés par des troubles psychiques en France ?
Oui, on estime qu'ils sont 1,6 million, mais seulement 750 000 bénéficient de soins prodigués en pédopsychiatrie. C'est tout le système en santé mentale et pédopsychiatrique en France qui est en souffrance. Les jeunes patients peuvent attendre dans certaines villes jusqu'à 2 ans pour avoir accès à un centre médico-psychologique infanto-juvénile. On manque de places, on manque de professionnels. Il y a 2 fois moins de pédopsychiatres qu'il y a 10 ans.
Et d'autant que les problèmes de santé mentale surviennent assez tôt chez les enfants.
Oui, on a longtemps minoré cette réalité en se concentrant sur des troubles psychiques qui apparaissent vers l'adolescence, comme les troubles alimentaires, bipolaires ou schizophréniques. Et en réalité, les plus jeunes peuvent aussi connaître des situations de grande souffrance psychique. Autre oublié, les étudiants. Avec la situation économique actuelle, ils sont très vulnérables. Beaucoup connaissent la précarité. Or, survivre grâce à l'aide alimentaire ou se priver de repas met clairement en danger leur état de santé mentale et leur sécurité.
Il y a donc une vraie nécessité à investir dans notre jeunesse, à prendre soin de toutes ces générations. On peut même parler d'urgence, hein.
Oui, il faut que les dispositifs de prise en charge puissent être renforcés avec des équipes mobiles et davantage de lieux de soutien. Il faut aussi des politiques de prévention plus conséquentes auprès des jeunes, mais aussi auprès des parents, pour réduire les situations d'urgence. L'OMS le répète avec raison, 1 dollar investi dans la santé mentale en fait économiser 5. En résumé, Melchior, prévenir plutôt que guérir.
Eh ben, je pense donc j'agis. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle Guillol, de nous avoir parlé de cette dégradation alarmante de la santé mentale des jeunes. On peut aller plus loin avec vous sur le site fondation-falleret.org. Justement, Bénédicte Fuet, je me tourne vers vous, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, la santé mentale, notamment au sein de l'association des Amis de Jéricho, proche de Toulon. Qu'est-ce que vous constatez, vous, chez les jeunes ?
Alors, ce qu'on voit chez nos adultes, on va dire, hein, chez nos personnes un peu plus âgées, se retrouve aussi chez nos jeunes. Et effectivement, comme le disait votre intervenante, le service, donc les services de psychiatrie, que ce soit ici ou ailleurs en France, se retrouvent complètement embolisés. Donc, les prises en charge se sont très, 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 très longues, très compliquées. Et avec notre public qui a besoin de soins immédiats, ça complique encore un petit peu, ça complexifie les choses. Donc c'est vrai que sur le Var, on peut aussi compter, nous, au niveau de l'Union nationale du Var, des équipes mobiles, hein, donc qui sont le MPS, d'équipe mobile précarité santé, enfin santé précarité, parce que ça a changé depuis peu.
Oui.
Donc ce sont des binômes infirmiers et puis éducateurs qui font de l'allée vert. Et puis on a aussi la chance d'avoir sur Toulon l'interface psychiatrique Siloé, donc qui est rattachée à Promo Soins. Donc ce sont les infirmiers psychiatriques qui sont détachés de l'hôpital et qui viennent sur nos structures, que ce soit à Jéricho, au Favière, à Logivar. Donc ils sont aussi là pour nous appuyer par rapport à ça. Et le constat est le même chez eux.
Ouais. Et il faut agir, ouais. Hein, c'est ce qu'il faut se dire également ce matin. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Bénédicte Fuget, éducatrice spécialisée aux Amis de Jéricho. Barbara Kervadec, directrice de cette association. Bruno Rollet, directeur de l'association Logivar, et puis Benoît Mangenot, diacre dans le diocèse de Rennes et responsable diocésain de la diaconie brétilienne. On mettra tous vos liens sur notre site, hein, tant qu'à faire, rcf.fr. Merci à l'équipe de Toulon à Pierre-Henri, à Pascal, à Amaury et à Catherine qui ont permis ce matin la réalisation de Je pense donc j'agis. On se retrouve demain, comme d'habitude, hein, 9h-11h avec Anne Kerléo et on parlera de la reconnexion des jeunes à la nature. Gros programme. Bonne journée à tous et dans un instant, c'est votre programme local.